Courant Porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Dans cette saison 2, je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur la recyclabilité des polymères. Cette thématique est un enjeu technique, politique et industriel majeur aujourd'hui, compte tenu des directives européennes de recycler 50% des plastiques d'ici 2025. Comment la recherche publique aide les entreprises, les institutions, face à la transition énergétique, numérique et environnementale? Je suis Laure Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes.
L'idée que le vêtement est un consommable est assez récente puisque c'est en seulement 30 ans qu'on a doublé le nombre de vêtements qu'on achète. Chaque année, c'est 110 millions de tonnes de textiles générés dans le monde et quasiment autant qui sont jetés. Pour vous donner un équivalent, ça correspond à la production mondiale annuelle de bananes ou le poids de 19 pyramides si ça vous parle plus. Alors le mieux, ça serait de moins consommer de textiles et avant de jeter ses vêtements, de les réutiliser ou sinon de les recycler. Et il existe non pas une, mais des solutions pour recycler les vêtements. Parmi elles, un procédé d'upcycling, littéralement recyclé par le haut, c'est-à-dire transformer des produits usés en produits de qualité supérieure. Par exemple, faire des ceintures à partir de pneus de vélo, des meubles à partir de textiles usagés ou encore des œuvres d'art à partir de bouteilles plastiques. Je suis allée voir Marion Négrier, qui fait sa thèse au Centre de mise en forme des matériaux à Sophia Antipolis, un des sites de Mines Paris PSL, pour parler d'une voie de recyclage originale et prometteuse. Marion Négrier utilise des textiles en fin de vie pour développer des aérogels, des matériaux innovants à haute valeur ajoutée. Et on va voir comment. Bonne écoute! Bonjour Marion Négrier, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Oui, alors donc j'ai à la base une formation d'ingénieur agroalimentaire et chimie et génie biologique. Et j'ai commencé une thèse donc dans les matériaux biosourcés en novembre 2020. Donc là, je suis au Centre de mise en forme des matériaux et je travaille sur le recyclage de textiles en matériaux à haute valeur ajoutée qu'on appelle aérogel.
Alors sur les 92 millions de tonnes de déchets textiles générés par an, seulement 15% sont recyclés ou réutilisés. Le reste, c'est incinéré ou envoyé en décharge. On a peut-être en tête des images de décharges à ciel ouvert dans le désert d'Atacama au Chili ou au Ghana, par exemple. Marion, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que ces chiffres ils sont aussi bas?
Oui, alors ces chiffres ils sont très bas, en effet, parce que le recyclage, c'est un procédé qui est compliqué, très complexe. On a beaucoup de fibres différentes qui vont composer les tissus. On va avoir, par exemple, des fibres qui vont être naturelles, comme le coton ou alors la laine, donc soit d'origine végétale ou animale. Et on va avoir des fibres qui sont aussi artificielles. Donc là, on va avoir une origine naturelle, mais modifiée par l'homme, et des fibres synthétiques que tout le monde connaît. On va avoir le polyester, le polyamide. Et donc, toutes ces fibres-là, elles vont avoir des propriétés physiques différentes. Donc, on ne va pas pouvoir les traiter de la même manière lors du procédé de recyclage. Par exemple, le polyester, on va pouvoir le fondre, alors que la cellulose, donc le coton, donc on ne va pas pouvoir le traiter de la même manière. Il ne va pas fondre, il va directement se dégrader et brûler. Et tous ces mélanges de fibres vont être trop compliqués à traiter en une seule fois. Il faut vraiment des procédés très spécifiques pour chaque fibre ou mélange.
On va voir justement comment. Le fait qu'il y ait peu de recyclage, alors on va en parler, toi tu travailles sur un procédé de recyclage qui permet notamment de valoriser ces déchets textiles en développant des matériaux innovants. Et avant de nous parler de ça, est-ce que tu peux dire comment déjà sont recyclés les textiles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plusieurs procédés selon les matières justement?
Oui, alors du coup on a environ trois grands procédés pour recycler le textile. On a tout d'abord un procédé mécanique, c'est le plus simple. On va directement broyer, déchiqueter les fibres et ensuite faire, par exemple, du rembourrage de matelas. Donc ça, c'est le procédé qui est le plus utilisé. Ensuite, on a un procédé chimique. Donc là, on va directement agir sur les molécules des fibres. On va directement dépolymériser donc le polymère, donc refaire des petits morceaux de matériaux et après réutiliser ces petits morceaux. On peut avoir aussi un recyclage qui est mixte, donc on va utiliser à la fois une approche chimique et mécanique. on a aussi un recyclage qui est biologique. Donc là, on va utiliser des enzymes qui vont venir découper le polymère aussi, un peu comme le recyclage chimique.
Donc, si je comprends bien, les 15% qui sont recyclés ou réutilisés, d'ailleurs, est-ce que tu sais combien sont recyclés, combien sont réutilisés ?
On a 15% oui, qui sont recyclés ou réutilisés. On a environ 1% qui sont recyclés en nouveaux fils, par exemple. Mm-hmm. Après, le reste, c'est les deux. C'est soit réutilisé donc en friperie, par exemple, mm-hmm. Ou alors recyclé en rembourrage matelas.
D'accord. Et du coup, c'est vraiment par le manque du développement des techniques de recyclage que ce chiffre-là est si bas.
Oui, parce qu'on arrive quand même à récupérer beaucoup de déchets textiles, mais la majorité n'est pas recyclée, justement.
C'est pour ça qu'on les voit dans les décharges à ciel ouvert, comme je disais. Comme on l'a dit, l'une des difficultés du recyclage, c'est dû au mélange des matières d'origine différente. Et la particularité de tes travaux de thèse, c'est que tu utilises le recyclage chimique pour en faire de nouveaux matériaux, c'est faire ce qu'on appelle de l'upcycling, c'est ça ? Est-ce que tu peux me dire comment tu fais ça et ce que tu obtiens à la fin ?
Oui, alors moi j'utilise uniquement des procédés chimiques pour transformer le coton, donc la cellulose, et la viscose d'ailleurs. Et je découpe mon textile, donc je récupère des déchets textiles, je les lave.
Tu t'assures que l'origine des matières déjà ? Que ce soit bien de...
Oui. Oui, donc déjà, je vérifie l'étiquette et je vérifie donc, que j'ai soit 100% coton, soit 100% viscose ou rayon, qui est à peu près similaire. Ou alors, je prends des textiles qui sont 50% coton, 50% polyester. Dans ce cas-là, je vais récupérer uniquement le coton.
Comment est-ce que tu fais ça ?
Alors du coup, pour la viscose ou le coton, je vais tout d'abord broyer mes fibres.
D'accord.
Pour faciliter l'accès à mon solvant. Donc, je vais ajouter mon solvant aux fibres qui ont été broyées. Et donc, je vais complètement dissoudre la cellulose. Je vais avoir, à la fin, un liquide qui est transparent, qui est un peu la consistance, la viscosité du miel liquide, par exemple, si on arrive à s'imaginer ça. Et une fois que j'ai ma solution de cellulose qui est complètement dissoute, donc, par exemple, avec l'utilisation d'un tissu 50% PET et 50% cellulose, je vais avoir le PET qui va rester dans la solution. Là, je vais filtrer, récupérer que la solution de cellulose.
D'accord. Et qu'est-ce que vous en faites de ce PET ?
Le PET, je le mets de côté. Et ensuite, faudra voir dans le futur comment le recycler, justement. Pour l'instant, moi, je ne m'occupe pas des matières synthétiques, que des matières naturelles. Et donc, une fois que j'ai ma solution de cellulose dissoute, je vais la coaguler. C'est-à-dire que je vais rajouter un liquide qui est un non-solvant qui va permettre de solidifier ma solution et transformer donc, cette solution en un gel. Donc, je vais avoir un gel de cellulose. Je vais éliminer tout le liquide qu'il y a dans un gel pour obtenir comme une sorte de mousse, on va dire, mais avec une porosité très très fine, de l'ordre du nanomètre. Donc on ne voit pas du tout les pores à l'œil nu. Et j'ai besoin d'un séchage spécifique qu'on utilise ici au centre. Et on va garder cette structure nanoporeuse, en fait, du gel, grâce à ce séchage, et obtenir un matériau ultra léger.
Mais alors du coup, une fois qu'il est séché, c'est plus un gel ?
Non, du coup, on élimine complètement le liquide et on obtient quelque chose de solide, sec.
Et ça peut être utilisé dans quoi, donc ?
Alors, l'aérogel, il va avoir une structure très particulière. Donc, on a des pores très, très, très fins. Et il va être extrêmement léger. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, en tant que filtre. On peut filtrer des gaz, des liquides. On peut donc emprisonner des petites particules au sein du matériau. On peut aussi l'utiliser en tant qu'absorbant, parce que ça va fonctionner un peu comme une mousse, puisqu'il est rempli d'air, rempli de cavités, de toutes petites cavités. Mm-hmm. Et on peut l'utiliser aussi en tant qu'isolant thermique et acoustique, aussi par exemple, puisque justement, il va bien isoler de la chaleur et du son grâce à cette structure qui est assez fine et à la haute surface spécifique à l'intérieur. Et on va aussi pouvoir, par exemple, le charger d'une substance active, d'un médicament ou d'un engrais. Donc on va pouvoir mettre cette substance à l'intérieur du gel ensuite sécher pour faire un aérogel et donc l'utiliser pour la libération de médicaments dans la pharmaceutique, par exemple, ou en cosmétique. On peut mettre aussi du parfum. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur.
En fait, ça peut être un bon support pour des plus petites molécules.
Voilà, c'est ça. On va l'utiliser comme matrice de support.
Est-ce que tu peux me donner un ordre de grandeur de entre, je ne sais pas, un vêtement, un pull ou un t-shirt et de ce que la quantité que vous obtenez ou de ce à quoi ça ressemble quand vous obtenez à la fin la quantité d'aérogel?
Alors, donc le procédé permet de ne pas perdre de matière. Donc si je transforme 1 gramme de textile, je vais avoir 1 gramme d'aérogel.
D'accord.
Et l'aérogel est extrêmement léger. Sa densité est à 0,1, donc c'est 10 fois plus léger que l'eau. Donc on va avoir un volume bien plus important, sous forme d'aérogel bien sûr, que lorsqu'on a le textile sous forme d'une fibre classique.
Et alors ça toi, tu as fait tes essais sur la cellulose, donc sur le coton ou le rayon. Et est-ce qu'il y a d'autres matières où ça pourrait être utilisé, où ce même procédé pourrait être utilisé?
Alors, donc moi, j'ai utilisé que des textiles dans ce cas-là. Et j'ai aussi comparé avec de la cellulose pure, standard, qui, elle, est fabriquée dans les laboratoires. Donc là, j'obtiens les mêmes propriétés. Donc ça, ce qui est très intéressant. Et je peux adapter le procédé aussi à d'autres sources de cellulose, bien sûr. Je peux l'utiliser sur tout ce qui est déchets agricoles à base de cellulose ou alors les papiers journaux. Donc voilà, tout ce qui est à base de cellulose, je peux utiliser le même procédé, en fait.
Mais après, pour d'autres matières comme la laine ou la soie ou le polyester, c'est d'autres procédés, en fait, qu'il faut développer.
Ça pourrait marcher dans certains cas, mais en général, oui, il faut développer d'autres procédés. Mais on peut faire des aérogels à partir d'autres matières, bien sûr.
L'idée, si on veut ensuite développer cette méthode de recyclage à l'échelle industrielle, c'est quoi les prochaines étapes pour y arriver?
Alors, déjà, pour qu'un procédé de recyclage soit donc efficace, il faut aussi qu'il soit peu coûteux. Donc là, dans mon cas, les solvants que j'utilise, ils sont très chers. Je ne fais que des aérogels à l'échelle du laboratoire. Et pour l'instant, je ne recycle pas mon solvant. Il faudrait le faire.
Parce que c'est beaucoup de quantité de solvant. Sur 1 gramme de coton, par exemple, quelles sont les quantités de solvant là, que tu utilises?
Donc du coup, quand je fais ma solution de cellulose, quand je dissous mon textile, j'utilise entre 5% et 10% de textile dans ma solution. Donc j'ai entre 95 et 90% de solvant. Donc c'est quand même... pas négligeable. J'ai beaucoup de solvants par rapport à la quantité de textile qui est utilisée, au final, qui est recyclée. Mm-hmm. Donc, c'est là que le recyclage est indispensable, en tout cas à l'échelle industrielle. On ne peut pas s'en passer du tout.
Donc, il faudrait, là, pour l'instant, si on veut passer à des grandes tailles, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup de solvants, en fait. Beaucoup de litres de solvants.
D'accord. Oui, c'est vraiment énorme au final, parce qu'on n'a pas que le solvant pour la dissolution, on a aussi tout le solvant qui est utilisé pour laver le gel et enlever le solvant justement qui a été utilisé.
Pour avoir l'aérogel. Est-ce que vous pouvez recycler, tu l'as mentionné un moment, est-ce que vous pouvez recycler ce solvant? Est-ce qu'il y a des moyens pour réutiliser ce solvant?
Alors, pour tout ce qui est éthanol et eau, on pourrait recycler, évidemment, mais tout ce qui est solvant que j'utilise, moi, je vais utiliser un solvant très spécifique qui s'appelle un liquide ionique et qui fait partie des nouveaux solvants utilisés depuis une dizaine d'années. Ces solvants-là sont quand même assez compliqués à recycler. On peut faire très peu de cycles pour le moment avant que le solvant se dégrade. Et en fait, plus on fait de cycles, moins la cellulose est facile à dissoudre avec un solvant qui a déjà été recyclé.
Ouais, d'accord.
Et pour tout ce qui est de l'échelle industrielle, en tout cas, le séchage qu'on utilise, nous, au laboratoire, est assez cher. Donc, à l'échelle industrielle, il est plus compliqué à mettre en place.
D'accord. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration, que ce soit en termes de quantité de solvant ou de le séchage, pareil, sur le coût? Quelles sont un peu les pistes, les leviers pour passer à cette échelle industrielle?
Alors, pour l'instant, on explore d'autres possibilités en ce qui concerne les solvants. Donc, en cherchant des solvants qui sont plus facilement recyclables et aussi beaucoup moins chers. Parce que les solvants que j'utilise pour l'instant, c'est de l'ordre de 250 euros le litre. Donc, c'est un petit peu cher pour recycler des déchets textiles.
Vous cherchez d'autres types de... Vous essayez de trouver d'autres types de solvants qui seraient moins coûteux.
Ouais, on utilise plus de la soude pour dissoudre la cellulose, comme un procédé... classique qui a déjà été utilisé auparavant. Mais c'est plus compliqué de dissoudre la cellulose avec ce type de solvant. Donc, il faut trouver des stratégies, un bon compromis entre dissoudre correctement et efficacement la cellulose avec un solvant qui est peu cher et facilement recyclable. Donc là, c'est plus compliqué.
Ok, donc encore quelques étapes avant l'échelle industrielle, mais c'est une piste assez prometteuse finalement. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais déconstruire dans ton domaine ?
Oui, par exemple, on a la fibre que j'utilise, donc la viscose ou la rayonne, qui est une fibre artificielle, donc qui est d'origine végétale et qui est faite de cellulose. C'est une fibre donc, qui a pour origine le bois et qui a été modifiée par l'homme. Mais au final, elle a la même structure en fait, que le coton. Et donc, moi, je la recycle, et c'est même plus facile que le coton, d'ailleurs, à recycler. Et c'est juste qu'en général, quand on voit écrit viscose ou rayon, on pense à une fibre synthétique comme le polyester, ce qui n'est pas du tout le cas. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est par rapport au nombre de textiles qui sont recyclés aujourd'hui, à la quantité, on a donc, comme on l'a dit au début, très peu de fibres qui peuvent être réemployées, recyclées. Et au final, c'est quand même important de continuer à trier et à faire grandir ce gisement de textile qui va, au fur et à mesure, être de mieux en mieux recyclé, parce qu'on est en train de chercher de nouveaux procédés pour ça, justement.
C'est en développement, c'est en cours.
Oui.
Bah, merci, Marion.
Et merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Courant Porteur sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site de l'Institut Carnot Mines. Les liens d'écoute sont en description. À bientôt !